chercher, j'ai mérité ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier. Ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimée et nul ne peut me condamner. Change pas, tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle, ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi.
Tu l'as dit, tu l'as compris, tu tiens tes promesses. parole dira, je sais vivre dans le dénuement. Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Paul décrit ici la clé pour affronter les situations, les défis de la vie. Dépendre de celui qui nous fortifie, dépendre des forces que Dieu veut nous communiquer pour traverser les différentes situations qui peuvent se dresser là devant nous. Notre vie, mes amis, elle est entre ses mains. Et on veut proclamer ce matin, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. On peut surmonter, mes amis, les difficultés de la vie par sa force agissante. Et il veut nous la communiquer encore ce matin par son esprit. Alors s'il y a une église qui le croit ce matin, on va proclamer tous ensemble, par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
je suis ton enfant, proclame-le. Je suis ton enfant. Encore une fois, proclame. Je suis ton enfant. Je suis enfant. Je suis enfant. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis-le à ton âme ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Crois-le. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu es mon appui. Je suis enfant de Dieu. Même sur le vent sourd.
Déclarer à nos peurs que Jésus est Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux déclarer à tes peurs que Jésus est Seigneur dans ce lieu ce matin? Père, si tout s'écroule, nous savons que notre vie, elle est entre tes mains, Jésus. Croyons, Seigneur, que tu es ce Dieu qui est sur ton trône, que rien n'échappe à qui tu es, que rien n'échappe à ta bonne main, Seigneur. Nous voulons encore ce matin blottir tout contre toi. Nous voulons encore, Seigneur, placer notre foi, notre confiance dans ta fidélité. Seigneur, ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Et nous croyons que tes promesses sont vraies. Et même si tout s'écroule autour de nous, nous connaissons la fin de l'histoire. Jésus règne, Jésus revient, Jésus est Seigneur. C'est ce que nous voulons encore serrer sur notre cœur ce matin, Père. Tu es le Dieu qui demeure, le roi sur ton église, le roi sur ton peuple et bientôt sur cette terre entière. Un jour, tout genou fléchira devant toi, Seigneur. Et dans cette attente, nous voulons être ce peuple qui te loue, qui t'adore et qui espère en toi encore aujourd'hui, Père. Merci pour ta grâce et ta fidélité sur un plan mondial, mais pour nos vies personnelles. Tu es ce Dieu fidèle qui ne nous lâche pas. Tu es ce Dieu qui ne nous abandonne pas. Père, nous voulons placer notre confiance en toi encore ce matin, Seigneur. Que nous soyons dans des moments de joie, d'euphorie ou peut-être dans des moments de deuil ce matin. Nous voulons placer notre foi encore dans celui qui est fidèle et qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On veut bénir ton nom encore ce matin, Père éternel. Alors qu'on va prendre la Sainte Cène, on va faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, où le texte nous dit, au chapitre 26, les versets 26 à 29, au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellé l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » En tant que disciples, on a une espérance. Un repas de fête nous attend lorsque le royaume de Dieu sera pleinement établi lors du retour de Jésus. Et avec elle, cette joie de savoir que nous serons réunis avec toutes celles et ceux qui ont placé leur foi en Christ et qui nous ont devancés en rejoignant le Seigneur. Une joie de retrouver toutes celles et ceux qui ont espéré en l'Éternel. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait une alliance avec nous. Ce n'est pas juste un contrat, vous savez, où il y a « si tu ne réponds pas aux petites conditions sous les astérisques, alors tu passes à côté ». Ce n'est pas un contrat que Dieu a fait avec nous, c'est une alliance. Et c'est son sang qui assure de l'efficacité de cette alliance envers nous. Alors pour toutes celles et ceux ce matin qui ont placé leur foi en Christ, qui ont reçu Jésus comme Seigneur, je vous invite à prendre ce repas et proclamer ce chant « Je m'abandonne ». Peut-être tu as été découragé dans cette semaine. Puis tu as l'impression que tout ça, ça ne sert à rien. Jésus t'appelle encore ce matin à t'emparer de cette alliance qu'il a scellée par son sang pour toi. Alors qu'on va prendre ce repas et dire « Seigneur, oui, je veux que ça soit un geste symbolique mais aussi une prière. Je veux m'abandonner encore à toi. Je veux dépendre de toi. Seigneur, je me rends bien compte que sans toi, je suis perdu. Je m'abandonne. » Qu'on puisse le déclarer comme une prière ce matin.
Je m'abandonne. te connaître plus. Je m'abandonne.
Je décharge tout à tes pieds.
Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
Qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin, comme une maison de prière dans ce lieu. Est-ce que l'Église peut élever la voix vers son Dieu, exprimer sa dépendance, exprimer son besoin, exprimer sa reconnaissance, exprimer ses sentiments? Ce n'est pas un Dieu resté sur une croix que nous adorons, mes amis. C'est le Dieu vivant et ressuscité, le Dieu qui se tient à nos côtés. Alléluia, Jésus.
Oui, merci Seigneur.
Je déclarais ta bonté ce matin, Seigneur, même si je ne la comprends pas toujours. Je déclarais ta fidélité, même si parfois j'ai l'impression de ne pas la voir, même si parfois je ne la ressens pas. Tu es ce Dieu bon, ce Dieu fidèle, ce Dieu vrai, ce Dieu juste. Je veux juste bénir ton nom ce matin, Père, parce qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, c'est à tes pieds que nous voulons demeurer encore ce matin. C'est dans ta présence, Jésus. Te laisser agir, te laisser nous parler, te laisser nous conduire. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Merci Père, parce que si t'avais pas envoyé ton Fils Jésus, je serais perdu et loin de toi. Mais dans ta grâce, Seigneur, tu m'as aimé le premier. Pour ça, je veux juste te célébrer ce matin. Seigneur, même si je perdais tout, Seigneur, je ne veux pas perdre ta présence dans ma vie. Parce que mon espérance, elle est dans le Dieu d'éternité. Pas le Dieu simplement de cette génération, de cette saison, mais le Dieu de l'éternité. Tu demeures le roi, Seigneur. Alléluia.
Je voudrais vous soumettre une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et pour ceux qui seraient peut-être surpris, bien sachez que nous sommes une église qui croyons que Dieu parle encore aujourd'hui, que ce soit au travers de la Bible ou au travers de pensées qu'il peut donner à certains de ses enfants, à ses enfants. Je pense que c'est un encouragement qui parle plus particulièrement à une personne, mais j'ai l'impression qu'il peut en fait encourager plusieurs. Souviens-toi, il fut un temps où tu prenais tellement de plaisir à cette parabole qui parle du semeur, qui parle du grain de blé qui tombe dans ta terre et qui va porter un fruit abondant. Alors tu as travaillé, tu as agi, tu es sorti, tu as fait des campagnes d'évangélisation, tu as à chaque fois cherché à communiquer ton amour, l'amour que tu avais pour le Seigneur Jésus Et tu te disais, mais ils vont tous venir, c'est pas possible de faire autrement. Puis le temps passe et tu te dis, mais il ne se passe rien, Seigneur. Je ne vois pas grand-chose. Alors tu te mets un peu dans ton coin, tu t'attristes, tu te décourages et tu te dis, mais peut-être que ça ne sert à rien, peut-être que je me suis trompée en fait. Alors le Seigneur veut maintenant te dire, non, non, tu ne t'es pas trompée. Ma parole est vraie. Et quand je dis que quand j'envoie une parole, elle ne revient pas à moi sans avoir agi, c'est vrai, parce que c'est moi l'Éternel qui le dit. Ce n'est pas un être humain. Mais simplement, tu ne vois pas toujours le chemin de ma parole dans le cœur humain. Dans la nature, il y a des graines qui poussent très vite et on voit tout de suite quelques feuilles qui sortent. Et puis il y a d'autres graines qui vont parfois prendre des années avant de se révéler. Et parfois, certaines graines sont retrouvées dans des lieux arides ou glacés. Et pourtant, elles peuvent encore porter du fruit mis dans les bonnes conditions. Il en est de même pour ma parole, dit le Seigneur. Quand elle tombe dans le cœur d'un être humain, elle agit parce qu'elle est toute dans sa nature, elle est agissante, elle ne peut pas faire autrement. Mais le travail dans chaque âme est différent d'une personne à l'autre. Parfois on le voit, parfois on ne le voit pas. Parfois il va se faire tout de suite, parfois il se fera plus tard. Mais sache, dit le Seigneur, que quand ma parole vient dans le cœur d'une personne, elle agit et elle agit.
Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour accueillir cette parole et réfléchir? Dieu parle. Dieu use de patience aussi envers nous. Il est avec nous. Il ne veut pas être contre nous, mais il veut qu'on avance ensemble. Seigneur, tu vois. Tu connais nos cœurs. Et nous voulons faire attention à ta parole, à ce que tu dis, à ce que tu nous dis, Père. Parce que tu es ce Dieu bienveillant, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui veut nous amener à la maturité, à grandir, à aller de l'avant. Merci. Merci pour cette parole, qu'elle puisse travailler nos cœurs, qu'elle puisse interpeller et nous faire avancer. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prendre quelques minutes. Cela fait 2 ans qu'une personne a été malade. 2 ans qui a eu de la prière, qui a eu du combat. Et Dieu a décidé de la reprendre. Dina Mounien Duchman est décédée dimanche dernier, le 30 mars. Et elle est auprès de notre Père. Et samedi prochain, le 12, à 14h ici, il y aura une cérémonie d'au revoir. Et j'insiste bien sur d'au revoir. À un moment donné, on va la retrouver auprès de notre Père, comme le disait RP tout à l'heure, pour prendre ce repas tous ensemble, dans la joie. Et on est de tout cœur avec Mathieu, son époux, avec ses parents, ses beaux-parents, toute sa famille et ses amis. Et je vais vous demander, si vous le voulez bien, vous lever pour que nous puissions nous unir dans la prière. Pour que Dieu puisse encore, malgré la tempête, les soutenir, les encourager dans ce moment. Seigneur, on est là devant toi, bien humblement. Et on est là, Seigneur, pour soutenir Mathieu, pour soutenir les parents, les beaux-parents, les amis. Seigneur, dans ce temps de deuil, Père, il n'y a que toi seul qui a les mots qu'il faut. Il n'y a que toi seul, Père, qui peut tellement changer ces moments de deuil en paix, en joie. Seigneur, merci parce qu'en toi, nous avons cette espérance de la vie éternelle. Seigneur, et nous savons que Dina est à tes côtés. Nous savons, Père éternel, qu'elle est en paix. Seigneur, alors vraiment, accompagne dans ces temps de deuil. Accompagne, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. On va reprendre encore. Je m'abandonne, si vous le voulez bien. Amen, on a tellement besoin de connaître Dieu encore plus et encore plus parce qu'on le connaîtra ici-bas jamais parfaitement. Et je vais inviter Yolande ce matin qui est notre oratrice et qui va nous apporter encore quelque chose de la part de Dieu pour encore le connaître encore plus, encore pouvoir avancer dans notre vie ici-bas sur terre. Yolande est la bienvenue et nous sommes toutes oui.
Bonjour. La dernière fois que je suis intervenue, c'était pour clore une série de messages que notre chère équipe pastorale avait menée sur les relations. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À travers 4 séquences de vie, le célibat, la recherche du conjoint, la vie de couple, la sexualité. Et tous ces messages, à mes yeux, c'était ma manière de conclure, hein, étaient un appel à sortir de l'immaturité relationnelle. Vous rappelle un petit peu quelque chose? Cette immaturité, je l'avais expliqué comme ça, c'est l'idée selon laquelle nous sommes là, sur Terre, pour notre bonheur. Et que les gens autour de nous avaient plutôt intérêt à nous aider à être heureux. Et j'ai conclu mon message en disant que nous commençons à être un petit peu déstabilisés quand nous réalisons que Dieu a peut-être autre chose en tête. Que Dieu ne veut pas forcément, alors nous le comprenez pas mal, hein, notre malheur, mais on n'est pas là pour notre bonheur, mais pour apprendre à aimer. C'était ma conclusion la dernière fois. Et c'est le thème que je vais reprendre ce matin. Je vais l'approfondir. Nous sommes sur terre pour apprendre à aimer. Alors peut-être que vous avez déjà plein d'affirmations contraires dans votre tête. Vous dites, Yolande, on est sur terre pour servir Dieu, pour évangéliser, pour faire fructifier nos talents, pour trouver notre appel, pour avoir la vie en abondance, pour je ne sais pas trop quoi d'autre, d'accord ? J'ai envie de dire toutes ces affirmations sont vraies, pas en opposition à ce que dire, mais j'affirme qu'apprendre à aimer, c'est l'objectif numéro un, le premier de tous. Et tout le reste vient derrière. Comprendre ça, c'est le grand changement. C'est le réalignement complet de toutes nos ambitions, de toutes les ambitions de notre cœur. C'est le réalignement. Si je comprends que toute ma vie doit être subordonnée à cet objectif numéro un, apprendre à aimer. Alors, mon plan, on va vérifier quelques preuves bibliques, juste pour voir si ce n'est pas une lubie de psy. Et on va décortiquer deux mots, deux verbes, le verbe apprendre et le verbe aimer. Quelques petites preuves, rapides. Alors, spontanément, qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis qu'il faut... Quel verset vous vient spontanément quand je vous dis que c'est notre objectif numéro un? Oui, c'est un brouhaha, alors j'entends pas bien. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Luc 10, 27. Jésus dit que tous les commandements sont résumés là-dedans. Cet amour a deux dimensions, verticale, horizontale. Ce matin, on va surtout être sur la dimension horizontale. J'ai choisi aussi Éphésiens 3, 17, 19. Il y aurait plein de passages, hein, mais je vais garder celui-là. Paul prie pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, nous puissions faire plein de choses. Remarquez qu'il a dit enraciné dans l'amour, pas enraciné dans la connaissance, pas enraciné dans l'action, mais enraciné, fondé dans l'amour. Et puis, je ne pouvais pas squeezer 1 Corinthiens 13. Alors, je crois que vous avez la traduction. C'est une traduction anglaise que j'ai retraduite en français, juste pour que ça sonne peut-être un peu différemment. Si je parle avec une éloquence humaine et une extase angélique, mais que je n'aime pas, je ne suis rien d'autre que le grincement d'une porte rouillée. Si je proclame la parole de Dieu avec puissance, révélant tous ses mystères et rendant tout clair comme le jour, si j'ai la foi qui dit à une montagne « saute » et qu'elle saute, mais que je n'aime pas, je ne suis rien. Si je donne tous mes biens aux pauvres et je vais même jusqu'au bûcher pour être brûlé comme un martyr, mais que je n'aime pas, je ne suis arrivé à rien. Ainsi, peu importe ce que je dis, ce que je crois, ce que je fais, je suis ruinée sans amour. Et un peu plus loin, je saute tout le reste, verset 13, mais pour l'instant, nous avons trois choses à faire. Faire pleinement confiance à Dieu, espérer sans faille, aimer sans réserve, et le meilleur des trois, c'est l'amour. Est-ce que je vous ai convaincu que c'est l'objectif numéro un? C'est ce passage, en le relisant, je me suis dit, waouh, c'est béton. Alors, grand 2, le verbe apprendre. On va voir différents points. Petit a, quel écho a ce verbe, ce mot dans ton cœur? Ça suscite quoi chez toi quand je dis apprendre? Peut-être ça réveille des mauvais souvenirs de la scolarité. Peut-être des mauvais souvenirs d'apprentissage professionnel. Ou bien alors de l'enthousiasme. Ça suscite dans ta curiosité. Moi, j'ai jamais aimé l'école. J'étais ce que j'appelle une péniblement bonne élève. Péniblement, parce que j'ai toujours dû travailler beaucoup pour y arriver. Ça n'a jamais coulé de source. J'étais toujours dans le peloton de tête à la fin du trimestre ou de l'année, au niveau des résultats, mais j'ai dû beaucoup travailler. Ajouter à cela un perfectionnisme aigu hérité de mes parents, et vous avez devant vous quelqu'un qui a passé toute sa scolarité avec une trouille pas possible de ne pas être à la hauteur. Et c'était difficile. Donc, chacun de nous, toi aussi peut-être, le mot « apprendre » réveille des souvenirs. Et c'est important d'en avoir conscience parce que peut-être ça suscite des freins. même dans ce domaine spirituel. Apprendre, c'est ouf, pas agréable. Petit b, le mot apprentissage suppose des étapes, du temps. Regardez un enfant qui apprend à marcher, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il fait un ou deux pas, il tombe. Puis au fil des jours et de l'entraînement, il va finir par marcher. Vous apprenez une nouvelle langue, vous devez apprendre par cœur les mots parce que ça ne s'invente pas. Puis vous essayez de faire des phrases, vous dites parfois n'importe quoi. Et puis à force, ça finit par rentrer. Donc quand je dis que nous devons apprendre à aimer, c'est pareil. On va apprendre en tâtonnant. Parfois ça marche, parfois on y arrive. À côté de la plaque, parfois on aura tout faux. Mais c'est important de continuer, de s'entraîner, d'y retourner, d'y croire. Dans mes accompagnements, cette notion d'apprentissage, elle est très très importante, dans tous les domaines, mais on va rester dans le domaine d'apprendre à aimer. On n'y arrive pas du premier coup. Samedi dernier, dans le cadre du cabinet, Philippe et moi avons organisé une journée pour les couples, pas sur le thème d'apprendre à aimer, mais sur le thème de communiquer, la communication d'un couple. Et cette phrase, on fait chaque année plusieurs journées comme ça, et vous pouvez être sûr que cette phrase, elle sort à tous les coups, à un moment ou à un autre. C'est « Mais c'est pas naturel ?» Eh bien oui, quand on comprend, c'est pas naturel. Ça vient, et ça le devient au bout d'un moment. Donc ne vous découragez pas. J'ai envie de dire, pour apprendre à aimer, il faut une vie entière. Donc, on est tous en route. Petit c, est-ce que la Bible nous dit qu'il faut apprendre ? Et là aussi, j'ai fait une petite sélection de versets. « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32,8. Donc ça, c'est l'instruction que Dieu nous donne. Mais dans Colossiens 3,16, il y a écrit « Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. » Donc ça, c'est l'instruction qu'on peut se donner les uns les autres. Et mon préféré, c'est Matthieu 11,29. « Prenez mon joug sur vous. » Et apprenez de moi. Ou bien dans d'autres traductions, recevez mes instructions. Ou une autre encore, mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venir dans une école où le prof est doux et humble de cœur. Là, je suis en sécurité. Je sais que je ne vais pas me faire casser, dénigrer, humilier. Mais je vais avoir un prof bon, doux, patient, encourageant. Remarquez que Jésus ne dit pas « Si tu as envie, si tu as une petite minute à perdre, viens à mon école. Venez à mon école. » C'est un impératif. Apprendre n'est donc pas optionnel. Et la question qui se pose... Est-ce qu'au plus profond de notre cœur, est-ce que nous sommes encore enseignables, quel que soit notre âge? Est-ce que je suis encore enseignable? Petit D, quels sont les terrains d'apprentissage? L'amour est par définition relationnel. Donc les terrains d'apprentissage, c'est les autres. Famille, couple, amis, collègues, l'Église, fantastique terrain d'apprentissage. Tant que nous ne sommes pas confrontés aux autres, nous ne pouvons pas dire que nous aimons. On peut dire qu'on aime les pygmées perdus au fin fond de je ne sais quelle forêt. Ça ne nous coûte pas grand-chose. C'est en se frottant aux autres que la qualité de notre amour est éprouvée, qu'on sait jusqu'où on s'est aimé ou pas. Alors j'ai cherché des exemples. Quand ton collègue est désagréable avec toi, dis-toi que tu es en train d'apprendre une facette de l'amour. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être, je donne des idées, ce n'est pas forcément ça. Hein. C'est peut-être faire grâce à quelqu'un, voir au-delà des apparences, il s'est peut-être levé du mauvais pied ce matin, j'en sais rien. quand ton ado explose à tout bout de champ, parce qu'il est un petit peu débordé par ses émotions dans ce temps de croissance-là, dis-toi que tu es en train d'apprendre une facette de l'amour. La patience, l'empathie. Rappelle-toi comment c'était quand tu avais cet âge-là. Peut-être lui apprendre à communiquer. Mon chéri, ma chérie, tu as le droit de me dire tout ce que tu veux, mais tu me le dis correctement. Au lieu de lui foutre juste une baffe parce qu'il manque de respect. Quand tu es déçu par ton ami, dis-toi que tu es en train d'apprendre une facette de ton amour, de l'amour. C'est peut-être faire preuve de compréhension, se rappeler que chacun de nous est imparfait. Quand ton mari ou ta femme te blesse, dis-toi que tu es en train d'apprendre une facette de l'amour, apprendre à te dépasser, peut-être voir ses besoins plutôt que les tiens. Quand quelqu'un t'agresse, dis-toi que tu es en train d'apprendre une facette de l'amour. Peut-être ça peut être apprendre à être ferme, apprendre à poser des limites à quelqu'un sans entrer dans l'agressivité à ton tour, etc., etc. Juste pour vous montrer que apprendre à aimer, ça peut prendre des formes très, très différentes. Donc, si je résume, on a déjà vérifié qu'aimer est bien la volonté numéro un de Dieu, qu'apprendre n'est pas optionnel, que les autres, ce n'est pas l'enfer, mais l'école de l'amour. Alors, quand je dis ça, tout ça, quel réalignement ces affirmations font-elles dans ta vie? Ça change quoi dans ta manière de voir la vie, les relations, peut-être les décisions à prendre? Alors ce matin, je vais vous proposer un petit exercice. On va prendre une petite minute là. Chacun de vous, essayez de penser à une situation où franchement, aimer, c'est pas si simple que ça. Ça peut concerner ton patron, ton collègue, ton mari, ta femme, ton enfant, ton gendre, ta belle-fille, ton frère, ta sœur dans l'église, n'importe. Essayez de trouver une situation. Puis je vous propose de faire une minute de silence et d'être à l'écoute de Dieu et de lui poser cette question. Seigneur, que dois-je apprendre? Je vous propose de fermer les yeux, juste parce que ça nous aide à rester centrés, concentrés et être à l'écoute. On prend ce petit silence et chacun reste à l'écoute de Dieu. Grand 3, le verbe aimer. Alors j'étais pleine d'enthousiasme à l'idée de parler de l'amour et puis quand j'ai commencé à m'y mettre, je me suis dit, oh là là, aïe, 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 il y a tellement de choses à dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais choisir? Donc j'ai retenu 3 points. Petit a, apprendre à aimer, c'est prendre Jésus comme modèle. Rappelez-vous, Matthieu 11, 29, nous sommes à son école. C'est lui le professeur de l'amour. Autre verset, Jean 15, 12, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Le petit mot comme change tout. La manière d'aimer de Jésus n'a strictement rien à voir avec le sentimentalisme ambiant de notre société. Jésus était capable d'être en relation avec tout le monde, même les marginaux, laver les pieds à ses disciples, d'être humble, d'être serviteur, de prendre soin des autres, mais aussi de confronter, de défendre des personnes, de prendre position. Nous avons tendance à croire que aimer, c'est être gentil. Je crois que j'ai déjà dit du haut de cette estrade, Jésus n'était pas gentil, au sens où on l'entend souvent. Il avait un amour tellement fort, tellement puissant, tellement perspicace, tellement dérangeant, que la plupart du temps, cet amour-là était insupportable pour les gens, intolérable. Je vous donne un exemple. Je connais une femme mariée depuis 25 ans, dont la vie de couple est la cata. Mais elle m'a raconté qu'avant son mariage, son futur conjoint lui a dit qu'il ne renoncerait jamais à des relations avec d'autres femmes, même mariées. Et elle me dit : « J'ai accepté au nom de l'amour. » Accepter l'inacceptable, ce n'est pas de l'amour. Ok ? Dans cette situation, c'est beaucoup de fragilité, de la dépendance affective et c'est des traumatismes liés à son histoire. C'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas de l'amour. Alors, de quoi on parle quand on parle d'amour ? Beaucoup de personnes pensent que aimer, c'est naturel. Savez-vous qu'un bébé vient au monde avec la capacité à aimer ? Mais il ne sait pas aimer. Il l'apprend en contact avec ceux qui vont prendre soin de lui. Et en fonction de son histoire, ce bébé va plus ou moins apprendre à aimer ou de manière plus ou moins bizarre parfois. C'est que dans cette salle, certains reviennent de loin par rapport à ça. Et l'amour humain, de façon générale, il se vit avec ceux qui nous aiment. Il en parle à ses disciples quand il leur dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous ne faites rien d'extraordinaire. » Matthieu 5, 46. Tout le monde fait ça. Tout le monde arrive à faire ça. Aimer comme Jésus, c'est un peu plus que ça. C'est être capable de plus que les interactions affectives qu'on a tous avec les gens qu'on aime bien et qui, soit dit au passage, sont très agréables et que je ne dénigre pas du tout. Okay, c'est juste que l'amour auquel Jésus nous appelle, c'est bien plus que ça. Et maintenant, vous dites, bon, bah, alors c'est quoi ? Vous attendez une recette ? Ben, j'en ai pas. C'est notre relation avec Jésus qui va nous montrer. Situation compliquée au niveau de l'amour. Alors, j'espère que je choque personne, mais c'est pas la question. Moi, j'aime pas cette question qu'on trouve souvent. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place ? Je sais que c'est un vieux bouquin qui existait, parce que je trouve que c'est une démarche très intellectuelle. Mais plutôt, Seigneur, tu vis en moi par ton esprit. Donc, je communique avec Dieu. C'est pas qu'est-ce que tu ferais à ma place ? C'est Seigneur, montre-moi maintenant. J'ai besoin de ton amour. Tu as dit que tu as versé ton amour dans mon cœur. Je veux saisir cet amour. C'est cette intimité avec Dieu qui nous permettra de savoir quoi faire, quoi être dans chaque situation. Et je crois que j'ai déjà dit dans mes accompagnements, je n'ai pas toujours un amour humain facile envers les personnes. Il y a des personnes par leurs attitudes. Ça vient me chercher. Et j'ai besoin de prier. Intérieurement, ça va très vite. Seigneur, donne-moi ton amour. Aide-moi à les aimer. Ça va ? Petit B, apprendre à aimer, c'est accepter de se laisser transformer. Alors là aussi, franchement, parfois, je trouve qu'on a une vision, et je me mets dans le teint, médiocre de la vie chrétienne. On pense qu'il faut juste être un bon chrétien. Alors ça, c'est juste une expression que je ne supporte pas. C'est-à-dire mener une vie meilleure, nous améliorer un petit peu plus que la moyenne, étirer un petit peu notre capacité à aimer. demande pas à demander une vie meilleure, une vie un peu plus morale. Pardon. Il ne faut pas que je bouge. Ça, c'est dur. Merci. Donc je disais, la Bible ne nous demande pas juste d'avoir une vie meilleure, une vie un petit peu plus morale, une vie plus aimante. L'Évangile exige la transformation radicale du cœur. La transformation radicale du cœur. Denis Morissette en a parlé avec ses mots à lui la semaine dernière. L'enjeu, je reste toujours dans mon thème d'apprendre à aimer, l'enjeu de toute relation, c'est notre propre transformation. Ça, vous pouvez le noter. L'enjeu de toute relation, c'est notre propre transformation. Et par exemple, juste pour être concrète, ça, je le vois tous les jours dans mes accompagnements. Quand j'accompagne des personnes, que ce soit des couples ou des personnes individuelles, d'accord ? On voit plein de choses. On travaille beaucoup sur les comportements. Je leur donne des outils pour mieux se connaître, mieux comprendre les autres, être en meilleure relation avec soi, avec les autres, etc., pour cheminer, grandir, etc. Pour certains, ça va avoir un impact durable dans leur vie. Pour d'autres, ça ne marche pas. Et vous savez ce qui fait la différence ? Ce qu'on vient de dire, changement de cœur. Ça marche uniquement, uniquement, avec ceux qui acceptent que tout ce que je peux transmettre, tout ce qu'ils peuvent comprendre, doit absolument être au service d'un changement de cœur. Ou que sans changement de cœur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste des trucs et des astuces. Ce n'est pas juste 3 clés pour machin, 5 outils pour je ne sais pas quoi. Si mon cœur ne change pas, toute la connaissance que j'ai, et on l'a lu dans 1 Corinthiens 13, toute la connaissance que j'ai sur moi, sur les autres, toutes les techniques que je peux apprendre sur la communication, tout ça, ça ne marche pas sur le long terme. Parce que mon cœur doit changer. Alors si je vous redis ça à la manière biblique, parce que ce n'est pas juste un truc à moi, d'accord ? À la manière biblique, ça serait quelque chose. Ça marche seulement si je vis selon l'esprit et pas selon la chair. Ça marche seulement si mon ego est crucifié. Ok ? C'est la même chose. Vivre selon la chair ou selon l'ego, c'est mon indépendance, ma colère, ma rage, mon sentiment d'injustice, ma volonté d'avoir raison à tout prix. Ou bien alors ma froideur, ma distance selon mon caractère, etc., etc., qui vont prendre le dessus. Donc il y a un combat là. Se laisser transformer, ce n'est pas facile, on résiste. Je vous donne un exemple personnel, je suis 100% concernée par ça. Combien de fois ça nous est arrivé de nous prendre le chou, Philippe et moi ? Ça nous arrive aussi. Et je pars marcher. Vous avez compris que marcher, c'est mon truc. Et je me rappelle, une fois, j'avais le sentiment d'avoir le cœur en miettes. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, tiens mon cœur ensemble, parce que j'ai l'impression que si tu ne le tiens pas, il va tomber en 1000 morceaux. J'avais tellement mal. C'est douloureux quand on est en désaccord. Okay ? C'est profondément douloureux quand, avec la personne qu'on aime le plus, on n'est pas aligné. Et ça a été une bataille dans mon cœur, dans la prière. J'ai jamais parlé autant langue qu'à ce moment-là. Parce que mon cerveau, il peut pas, quand je suis dans un tsunami émotionnel, mon cerveau, il n'aligne pas 3 phrases. Okay ? Mais une bataille pour quoi ? Pour ne pas me durcir. Okay ? Quand on a mal, on a envie de se durcir, de se protéger. pour accepter de me remettre en question, de voir la poutre dans mon œil au lieu de voir juste la paille chez l'autre. Une bataille pour ne pas rester accrochée à ma douleur, hein, pour la lâcher. Une bataille pour pardonner. Et je sais que pour Philippe, c'est pareil. Se laisser transformer, c'est pas simple. Et pourtant, c'est l'objectif numéro un de Dieu. Petit C, apprendre à aimer dans la Bible, c'est éminemment pratique. Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jean 15, 12, qu'on a déjà vu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus parle à l'impératif, il donne un commandement. Okay ? Alors je vais vous proposer un petit exercice. Pour tous ceux qui peuvent, s'il vous plaît, levez-vous. Maintenant, tapez du pied. J'espère que les murs tiennent bien. Asseyez-vous. Maintenant, pleurez. J'ai pas dit rigoler, j'ai dit pleurer. Ok, il y en a qui font semblant de pleurer. Mais vous pleurez pas. D'accord ? On ne peut pas commander une émotion. Jésus commande. Vous avez été très gentil de m'obéir et de vous lever. Ça, vous pouvez faire une action. D'accord ? Mais on ne peut pas commander une émotion. Pour pouvoir pleurer, il faut être triste. Personne ne peut éprouver de l'amour, de la tristesse, de la joie sur commande. Donc, quand Jésus parle de l'amour et qu'il dit « je vous donne un commandement nouveau », nous ne sommes pas dans le registre émotionnel. Alors, je sais que j'ai déjà abordé ça, mais je le redis. Il y a plein de passages qui nous expliquent ce qu'est le concret de l'amour. J'en ai mis quelques-uns là. Il est question dans ces versets de faire du bien, de prier, de bénir, de faire pour les autres ce que vous aimeriez bien qu'on fasse pour vous, de prêter, d'aider, de donner, de répondre aux besoins de l'autre, d'être généreux, d'être bienveillant, etc. L'amour dans la Bible, c'est pratique. Et vous savez quoi ? C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que je peux aimer, même si émotionnellement, je ne suis pas tout à fait dans un mood. Et c'est pour ça que dans la Bible, il dit « aimez vos ennemis ». Ok ? Ce n'est pas affectif. Alors bien sûr, c'est toujours la même chose. Quand l'affect est là, c'est vachement plus agréable. Mais ce n'est pas toujours au rendez-vous. Souvent, on s'attend à ce que l'amour soit spectaculaire, sensationnel. Ça lui arrive, hein ? Mais la plupart du temps, ça se manifeste par des choses banales. Ramasser les chaussettes et les jouets qui traînent. Sortir la poubelle. Rabattre la lunette des WC. Alors, ça fait 30 ans que je vis avec 3 hommes, bon, un peu moins en ce moment, 2. Vous voulez vraiment que je vous parle de la lunette des WC ? Ça fait longtemps que j'ai baissé les bras et que j'ai renoncé par amour. Vraiment. Parce que je me dis, il y a des combats plus importants que celui-là. Aimer, c'est s'intéresser à l'autre. C'est concret. Là aussi, pour illustrer, je vous donne l'exemple d'une maman seule avec une ado de 15 ans, avec laquelle c'est devenu très compliqué ces derniers temps. Et apprendre à aimer, pour cette maman, ça a consisté, un, à remettre, ça va peut-être paraître bizarre, mais à remettre un contrôle parental sur le téléphone, sur le smartphone de sa fille de 15 ans. Elle a dit que ça a été une bataille au corps à corps, presque. Alors, le téléphone s'éteint à partir d'une certaine heure, je ne sais plus, 22h. 2h30 de réseaux sociaux, parce qu'il ne s'agit pas non plus de marginaliser sa fille par rapport aux autres jeunes, d'accord ? Mais 2h30 de réseaux sociaux. Et avec le temps, la fille reconnaît que ça lui fait du bien de ne pas être trop alimentée par toutes les bêtises qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ça a été, la jeune voulait changer, recommencer un nouveau départ, cheveux longs. Elle est venue avec une photo d'un garçon, cheveux tout courts. Elle a dit, je veux une coupe comme ça. La mère, elle a un peu touc. Elle voulait une couleur un peu voyante. Pareil, négociation. Rendez-vous chez le coiffeur, pas pour faire couper les cheveux, pour discuter avec le coiffeur, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui ne serait pas bon. Elle a quand même accepté. Voilà, elles ont négocié. Pour cette maman, ça voulait aussi dire qu'à la rentrée, elle a renoncé à certaines de ses activités, de ses engagements, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle devait être plus présente pour sa fille. Réalignement des choix et des décisions. Elle m'a dit, franchement, Yolande, ça aurait été tellement plus simple de laisser courir. Aimer, c'est courageux. Et c'est terriblement pratique. Il y a tellement, tellement d'actes d'amour concrets qu'on peut poser au quotidien. Mais c'est toujours des choix à faire. Alors, je résume. Je me lève tous les matins avec cet objectif numéro 1, bien précis, qu'aujourd'hui, c'est un jour où je vais apprendre à aimer. Car naturellement, je ne sais pas aimer comme Jésus aime. Donc, je vais devoir apprendre. Cet apprentissage va m'obliger à rester très, très dépendante de Jésus. D'accord ? Pour recevoir les directives pour chaque étape. Et ça va se traduire de manière très concrète dans ma vie. Alors, pareil, quand je dis ça, quel réalignement dans ta vie, quel choix, quelle décision, je repropose un petit temps de silence, comme tout à l'heure. Vous allez reprendre la même situation, éventuellement. Et être à l'écoute de Dieu autour de ces deux questions, que dois-je faire ? Que dois-je reconsidérer dans ma vie ? Je propose un temps de silence. Je vais terminer par la prière et on va faire un peu différemment et je vais conclure mon message après la prière. D'accord ? Un petit temps de silence, on ferme les yeux. Seigneur, que dois-je accepter de faire ou de reconsidérer dans ma vie par rapport à cette situation où c'est si dur d'aimer ? Seigneur, nous sommes tous devant toi avec toutes ces situations compliquées dans nos vies. Toutes ces situations où nous avons peut-être atteint les limites de notre amour naturel. Nous ne savons pas aimer, Seigneur, comme toi tu aimes. Et nous le reconnaissons humblement devant toi. Seigneur, aide-nous chacun, chacune. Comme Anne l'a dit tout à l'heure, révèle-nous encore plus ton amour, parce que c'est vraiment dans ton amour qu'on va pouvoir puiser ce qu'il faut pour pouvoir aimer les autres. Rappelle-nous combien tu nous as aimés. Rappelle-nous, aide-nous à comprendre, pas juste avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, la dette énorme que tu as effacée dans nos vies, pour que nous puissions considérer la dette de l'autre comme étant trois fois rien à côté. Je te prie d'aider chacun de mes frères et sœurs à faire un pas de plus avec toi, à se laisser transformer par toi et à voir des miracles dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors en conclusion, il manque un point important dans mon message. C'est la question du pardon. Il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de pardon continuel. Je ne l'ai pas abordé parce que le pardon en lui-même est un sujet tellement vaste. Mais je tiens à le préciser quand même. J'aimerais terminer avec cette pensée. La Bible dit qu'un des signes de la fin du temps, c'est que l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour de beaucoup se refroidira. Et aujourd'hui, on est dans une société où c'est l'amour narcissique qui est prôné et cultivé. Amour où je n'aime l'autre que tant qu'il correspond à ce que je veux. Et franchement, mes frères et sœurs, on doit faire hyper gaffe à ne pas être contaminé par ça. On est environné par cette mentalité, par cette pensée. Seigneur, garde-nous d'être contaminés par cette façon de voir et de vivre les choses. Je vois que la petite phrase s'était déjà affichée tout à l'heure. On doit avoir conscience que nous sommes appelés à vivre une histoire d'amour située en guerre. Nous sommes en guerre au niveau spirituel. Nous sommes dans un monde en guerre au niveau spirituel. Et nous sommes appelés à vivre une histoire d'amour sur ce terrain-là. Et cette citation de John Eldredge, « L'amour est notre destin et l'enfer s'y oppose avec ténacité. » L'amour est notre destin, mais l'enfer s'y oppose avec ténacité. Que Dieu nous aide à garder les yeux ouverts. C'est vraiment ma prière. Merci de votre attention.
Merci beaucoup Yolande. Apprendre à aimer. Bon, moi j'ai une chanson qui me suis venue dans la tête, c'est pas celle-là, mais apprendre à aimer. Ça va être les devoirs de la semaine, je pense. Demain matin, on va se lever. Ok, Seigneur, cette journée, c'est pour apprendre à aimer. Avec nos enfants, nos conjoints, nos collègues de travail, nos voisins, et puis toutes les personnes qu'on croisera. C'est un défi, hein ? C'est un défi, mais avec Dieu, on peut relever le défi bien haut. Amen. Dimanche prochain, je crois que Mathieu avait dit à un moment donné, il avait donné une image que l'Église est comme un avion avec deux ailes. Il y a l'association culturelle qui est l'épi, l'Église, et l'association culturelle qui est en jeu. Et la semaine prochaine, l'épicollecte. Il y a l'épicollecte en faveur de bénéficiaires. L'association en jeu, pardon, je trouvais le mot, elle donne des colis alimentaires à plus de 100 personnes. Et donc, on a besoin de votre soutien aussi. Donc, si vous pouvez amener, voilà, toute la liste, elle est là, mais elle est aussi dans le hall. Dimanche prochain, il y a une collecte qui sera faite, justement pour encore venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Vendredi 18 avril, il y aura une soirée de louanges avec Anne-Clémence Rouffet-Cantelberg et toute son équipe à partir de 19h30. Ce sera un temps fort aussi à vivre dans la louange, dans l'adoration. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas aussi à inviter pour passer un temps vraiment merveilleux dans la présence de Dieu. C'est dans la louange aussi qu'on remporte des victoires, c'est dans la louange qu'on est fortifié, encouragé. Alors venez. N'hésitez pas à inviter aussi. Et vous savez que à chaque fois qu'un message est apporté chaque dimanche et que ça interpelle vos cœurs ou si vous avez vécu une situation assez difficile cette semaine, on a une équipe écoute et prière qui se met à votre disposition. N'hésitez pas. Je pense que j'ai envie de dire là, on devrait tous y aller pour Seigneur aide-nous à apprendre à aimer cette semaine et pour leur demander de prier avec nous ou de prier tous ensemble. En tout cas, que Dieu vous bénisse durant cette semaine et qui nous aide à apprendre à aimer, pas comme le monde aime, mais comme Dieu nous l'a montré. Amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous.